Radio Grand Ciel présente Ensemble, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Je reçois Jean-Pierre Bernard avec beaucoup de joie. C'est lui qui est président du club Perche Plongée de Nogent-le-Rotrou. Jean-Pierre Bernard, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Alors, nous avons eu la chance, il y a 4 semaines, d'avoir une émission sur le club de perche plongée. Nous savons maintenant beaucoup de choses sur la plongée. Et aujourd'hui, nous allons, en quelque sorte, voir tout d'abord la déontologie du plongeur avec bouteille. Parce que il y a, comme dans tout sport, une certaine déontologie. Alors, Jean-Pierre Bernard, veuillez m'expliquer en quoi elle consiste.
Ça, c'est très simple. Quand on est sous la mer, l'ordre qui nous est donné, mais ça tombe sous le sens, c'est de ne rien toucher, ni la faune, ni la flore, de ne pas donner à manger à une espèce, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, de ne rien chasser, ni poisson, ni crustacé, de ne rien casser, si possible, en surveillant bien ses palmes, ça peut être accidentel, de ne rien remonter de vivant, ni coquillage, ni corail, qui est un animal vivant, le corail, ni morceau d'épave, ça c'est mort, mais enfin, on ne touche à rien, on laisse tout. La seule chose qui est éventuellement, c'est un petit clin d'œil, qui est autorisé à remonter, sont des bouteilles qui sont vides. Et encore, faut-il bien regarder, parce que si c'est une bouteille en verre, elle peut avoir un locataire, qu'il ne faut pas toucher.
Ah oui.
Un goubi.
Ah, oui. Alors nous abordons la biologie marine, c'est-à-dire que la vie marine est très importante et elle occupe 2 emplacements, l'aire pélagique et l'aire benthique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ?
Tout à fait, mais vraiment en quelques mots. Hein. La zone pélagique, c'est la zone où les espèces nagent, on va dire.
Soit des espèces animales ou végétales.
Voilà, c'est ça. C'est la zone des poissons, c'est la zone de tout ce qui flotte. Et l'air benthique, c'est à l'inverse, c'est tout ce qui est dans le fond. Les vers, les coquillages, les crustacés, les nudibranches, j'aurai l'occasion d'en reparler aussi, etc. C'est tout, les herbiers, c'est tout ce qui est dans le fond. Il faut savoir que dans une mer, 90% de l'occupation de la mer est fait par des animaux. Donc, oui. Il reste 10% pour les herbes, les algues, etc.
Alors, justement, est-ce que les poissons ont un sexe ?
Ah, tout à fait. Il y a des mâles, il y a des femelles, mais sur les, grosso modo, 27 000 espèces qui sont recensées, environ 10% sont des poissons hermaphrodites.
Oui. C'est-à-dire qu'ils vont changer de sexe.
Voilà, ce que l'homme ne connaît pas d'ailleurs. Généralement, pour remplacer en cas de disparition, de mort, le reproducteur ou la reproductrice dominant de la communauté, puisqu'ils vivent souvent en communauté.
C'est dans un but un peu guerrier.
Tout à fait. Alors, de nombreuses espèces sont hermaphrodites. C'est un peu technique, ils sont protogynes, c'est-à-dire qu'elles commencent leur vie en femelle.
Oui.
Et sous certaines conditions, évidemment, elles se transforment en mâle.
Alors, certaines conditions, ça veut dire donner des exemples.
Non, il n'y a pas d'exemple. Ça peut être, il y en a peut-être 1000. Raison. Non, c'est trop compliqué là, à aborder. Il y a des histoires de température aussi. Toutes les espèces ne sont dans pareil. Une même espèce, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Oui. Non, c'est très compliqué. Alors, les plus connus quand même pour nos auditeurs, c'est le mérou, les labres pour ceux qui connaissent un petit peu avec le fameux Napoléon qu'on retrouve.
Oui, j'ai vu sa tête que vous m'avez montrée, c'est impressionnant.
En mer Rouge ou l'océan Indien. Et puis une autre race de poissons qu'on appelle les barbiers. Alors les mérous, ils commencent leur vie en fille et ils finissent leur vie en mâle.
Quand ils sont vieux.
Naturellement. Hein. Le barbier, c'est un autre poisson qui vit en groupe chez nous, en Méditerranée. Fait la même chose. Alors dans chaque groupe, il y a un grand mâle qui domine un harem de femelles plus petites. Le clan des femelles est quant à lui strictement hiérarchisé par sa taille, à la grosseur. Chaque femelle domine celles qui sont plus petites. Donc c'est vraiment... ça se passe bien, hein, ça se passe en famille. et dominée par celles qui lui sont plus grandes. Voilà.
Donc chez les poissons, il y a aussi une hiérarchie.
Tout à fait. Tout à fait. Une hiérarchie physique.
Oui.
Physique, hein. Chaque femelle domine celles qui lui sont plus petites et elle est dominée par celles qui sont plus grandes aussi. Il y a une hiérarchie qui a été observée. Et les premières dans le classement, ce qu'on appelle la reine, elle est soumise.
Comme chez les abeilles.
Comme chez les abeilles. C'est l'homme qui l'a baptisée comme ça.
Oui.
Hein, hein. Elle est soumise au mâle et domine toutes les autres femelles. Alors, lorsque le mâle dominant meurt, la reine, donc la plus proche, la plus ancienne dans le rôle, elle se transforme en mâle dominant. Et les autres femelles montent d'un cran, montent d'une marche supplémentaire dans le classement hiérarchique, et ainsi de suite.
Ah oui,
c'est comme ça. Et c'est, paraît-il, hein, ça je l'ai pas vérifié moi-même, mais enfin c'est le stress qui est induit par la relation de dominance qui maintient le poisson dominé dans son statut de femelle. Ils savent qu'ils sont dominés, donc ils bougent pas. Hein, c'est, y a pas de problème. Alors la reine, elle reste femelle tant qu'elle est dominée par le mâle. Donc le jour où
mais
mâle,
quand elle devient mâle,
quand le mâle disparaît, elle devient.
C'est elle qui devient la
une
reine.
Une fois le mâle dominant mort,
c'est elle qui prend la place.
Elle a plus de stress, elle perd son stress et y a un phénomène hormonal. Et puis on dit il y a une atrophie des ovaires, une croissance des testicules, elle grossit, devient le mâle dominant pendant un certain temps. Voilà. On peut dire en résumé que la reine devient roi à la mort du roi.
On peut dire ça. Alors, est-ce qu'il existe aussi des poissons hermaphrodites protendres ?
Oui, au sens où ils commencent leur vie comme des mâles, c'est donc le sens inverse.
Oui.
Et sous certaines conditions, toujours pareil, hein, c'est pas, ils se transforment en femelle, hein, c'est pas.
Alors, sous certaines conditions, qu'est-ce que vous entendez par
comme,
là?
Comme tout à l'heure, ça peut pareil. Être, ça peut être, les conditions, ça peut
le
être.
Le stress.
Oui, puis ça s'adresse pas tous pareil. Ça peut être le climat, la chaleur, le stress, ça peut être bien des choses, hein, l'environnement. Alors, ça, c'est le cas des poissons clowns.
Qu'est-ce que c'est que les poissons clowns?
Les poissons clowns, c'est Nemo, pour les gens qui connaissent pas.
Ah oui.
Notre ami Nemo. Alors chez le poisson clown, alors il y a des poissons clowns, il y en a. Je l'aborderai plus tard. Il y en a à foison. Et il y a un couple, ce qu'on appelle un couple royal. Il y a des juvéniles. Les juvéniles, ce sont les bébés et des petits mâles qui sont non reproducteurs et qui sont incapables de se reproduire. Et le couple royal. Lui, il est constitué d'une grande femelle dominante, qui est donc la reine, et d'un petit mâle dominé, qui est le roi, et les deux partenaires sont fidèles jusqu'à la mort.
Ah oui, donc l'amour existe aussi là.
Peut-on parler d'amour? Je ne sais pas, mais il y a une fidélité. On ne sait pas à qui l'attribuer, mais c'est comme ça, c'est bien, c'est bien.
Mais ça a été... C'est étudié.
Oui, il y a des scientifiques qui ont étudié ça depuis des années. On sait ça depuis fort longtemps. Et on continue à découvrir, d'ailleurs.
Ah, et on continue à découvrir. Ah oui, c'est très intéressant.
Alors, quand la femelle mâle dominante meurt, le petit mâle grossit, puis il se transforme en femelle dominante. Ah, il change.
C'est voilà. Incroyable. Hein.
Voilà.
Alors, je crois qu'il y a aussi un poisson épervier nain qui aussi est un phénomène.
Lui, pareil, hein, il n'est pas le seul. Il y a également des gobies, des labres. Des labres, c'est comme le poisson Napoléon, c'est la même famille, qui peuvent changer de sexe, mais plusieurs fois de suite. Ça, voilà. Alors là, je n'ai pas l'explication. Je ne sais pas si quelqu'un l'a, mais c'est un fait qui est constaté parce qu'ils changent de livrée, hein, ils changent de tenue à ce moment-là. Alors le groupe dans ces espèces-là, c'est mené par un mâle dominant, c'est un harem, quoi. Et lorsque le groupe devient trop grand pour le monsieur, eh bien l'une de ces dames, parmi les plus grandes, peut se transformer en mâle.
Et c'est toujours la taille qui est importante.
Voilà, et prendre à sa charge la fécondation des femelles, les laisser. Voilà. Donc on s'arrange en famille. Alors le nouveau mâle peut redevenir femelle. C'est quand même extraordinaire.
Oui, c'est quand même assez étonnant.
La femelle qu'il était à l'origine, si son statut de dominant est remis en cause par un monsieur plus puissant que lui, un mâle plus...
Ah oui. Donc il y a des rivalités.
Il y a des rivalités. Alors il existe également des poissons comme le séran écriture, qui sont des hermaphrodites synchrones.
Ça veut dire quoi, séran? Séran écriture.
Ah, pas séran, c'est un nom.
Ah oui.
C'est comme poisson clown, c'est comme...
Oui, c'est ça.
C'est un nom.
Le séran écriture.
Voilà, qui peuvent... Oui, parce qu'on les a baptisés, parce que il a comme un système d'écriture qui ne sert à rien, évidemment.
Vous l'avez vu?
Oui. Ben, je les ai tous vus.
Tous ces poissons-là, vous les avez vus?
Oui. Et qui peuvent à tout moment de la saison des amours se comporter comme mâle ou comme femelle. Et ils ont un organe génital mixte, qui s'appelle le vautessis. Mais bon, c'est pas non plus légion.
Ah, c'est quand même incroyable.
Ah oui, c'est incroyable.
Alors, vous avez vu donc des spécimens complètement étranges quand vous avez fait vos voyages.
Oui, alors donc bon, étranges. Certains sont assez étranges, mais beaucoup sont très sympathiques. Quand on fait l'Égypte et la Mer Rouge en partant de Sharm el Cheikh, ou quand on va faire une croisière dans la Mer Rouge du Sud, moi, j'ai eu l'occasion de photographier des napoléons et des tortues, et puis bien d'autres. Mais
oui, moi j'ai vu les photos, c'est extraordinaire. Voilà. Hein, napoléon là, c'est.
Oui, alors on. Je peux parler du napoléon parce que c'est quand même pas un poisson d'aquarium, c'est pas un petit poisson rouge.
Ah non.
Le poisson, le napoléon, il est bien connu des plongeurs parce qu'il a une bosse sur le dessus de la tête, au-dessus des yeux. C'est cette protubérance qui lui vaut le nom d'empereur parce que ça ressemble, enfin, faut le vouloir, au bicorne de l'empereur. Mais tous les individus ne l'ont pas. Moi, j'en ai vu qui ne l'avaient pas ou qui n'étaient pas encore formés, parce qu'en fait, c'est avec l'âge que ça vient.
Ah oui. Donc peut-être ils ne sont pas dignes encore.
Alors lui, il est de la famille des labres. Alors il commence sa vie en tant que femelle. Alors cette femelle atteindra sa maturité sexuelle lorsque sa taille avoisinera les 50 cm vers l'âge de 7 ans. Et aux alentours de 15 ans d'existence... là, il change de sexe et le poisson mesurera environ 1 mètre 20.
Il double quoi ?
Il double quasiment, oui. Il peut aller plus loin, hein. Il peut aller encore plus grand, mais enfin, grosso modo, c'est 1 mètre 20. Alors, ce qui était intéressant de savoir, c'est que les femelles peuvent pondre plusieurs mois dans l'année, voire même toute l'année.
Ah,
alors, ça dépend. Ça peut dépendre par contre des mers, puisque la mer Rouge, c'est une mer chaude, bien sûr, hyper salée. Je ne dis pas que ça a une influence, mais il peut y avoir quelque chose. Bon, le napoléon, il a faim, évidemment, il se nourrit de tout ce qu'il trouve, mais il n'attaque pas les autres poissons. Hein. C'est un poisson qui se nourrit de tout ce qu'il trouve dans le fond de la mer. Et cette petite bête-là, malgré tout, elle peut vivre entre 25 et 30 ans, ce que tous nos auditeurs n'ont pas sûr d'imaginer.
Non, c'est vrai qu'on n'arrive pas à imaginer ça, parce qu'on ne connaît pas ce monde-là.
Voilà.
Merci à vous de nous informer, parce que c'est pour moi une découverte, vraiment.
Alors, ce poisson napoléon, là, malheureusement, pendant des années, des plongeurs les ont nourris, pour les attirer, ils les ont nourris avec des œufs durs.
Mmh.
Ils emmenaient ça dans leur poche. Et puis, je pense que tout le monde sait que le poisson, il n'est pas l'habitude de manger des œufs de poule. Hein. C'est pas dans son habitude. Alors, par contre, il aime ça. Donc, si on a un œuf dur, le poisson, il vient le manger, ce qui permet de le photographier, etc., etc. Mmh. Mais c'est strictement interdit maintenant. Parce qu'à l'époque, c'était pas dit, mais maintenant, c'est interdit. Hein. Alors, évidemment, comme il était attiré par des œufs, le poisson, le napoléon, il venait, et il le fait toujours d'ailleurs, il vient côtoyer le plongeur, des fois qu'il aurait quelque chose à lui donner à manger. Mais c'est nuisible à sa survie, parce que pour le pêcher, il est encore plus facile et c'est un poisson qui est pêché.
Oui.
Moi, j'en ai jamais mangé, mais je sais qu'il est pêché.
Alors, est-ce que vous avez aussi vu des tortues ?
Alors, en mer Rouge, comme toutes les mers du monde d'ailleurs, hein, il y a des tortues, mais bon, c'est l'occasion de parler de cette petite bête. Il y a plusieurs sortes de tortues. Il y a les kawanes,
elles sont très grosses.
C'est
ça.
Oui, pas toutes, hein.
Mais c'est quand même pas des petites comme nous.
Non, non. Enfin, elles sont pas toutes non plus gigantesques. Alors bon, moi je prends la tortue imbriquée. Elle mesure entre 60, 90, peut-être même un petit peu plus de longueur. Et ça pèse entre 50 et 80 kilos. Mais ça peut aller encore beaucoup plus, plus de 120 kilos. Alors leurs pattes sont transformées en palmes. Et elles vivent dans les eaux chaudes, principalement. Hein. Ces petites bêtes-là sont immunisées contre pas mal de choses, contre la toxicité, et même mortelle. Et elles mangent tout ce qui est ponche toxique, anémone, etc., etc., ou les comatiles. Alors par contre, une petite chose amusante, c'est que les tortues mâles retournent toujours vers la plage où elles sont nées.
Ah oui.
Pour se reproduire. Alors que les femelles, vont pondre sur n'importe quelle île, ça lui est complètement égal. Et une autre curiosité qui existe aussi pour les tortues de terre, c'est que le sexe de la tortue est déterminé par la chaleur.
Ah.
Donc l'œuf, s'il est l'œuf du dessus par rapport à l'œuf du dessous, s'il n'a pas la même température, il y aura un mâle et un femelle et une femelle.
Ah oui.
Voilà. Et la tortue, c'est pareil. Bon, il y en a. C'est gracieux. On nage avec elle sans problème. Elle nous dit jamais rien. Et elles n'ont pas beaucoup de prédateurs à part les requins et les crocodiles. Mais là où je plonge, j'ai jamais vu ça.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Jean-Pierre Bernard et nous évoquons maintenant les Maldives, la croisière qu'il a pu faire il y a combien de temps, Jean-Pierre ?
Oh, il y a quatre ans. 4 ans, voilà, ça date déjà maintenant.
Alors, je crois que c'est avec le requin-baleine que vous avez bien connu les Maldives.
Voilà, alors donc il y avait beaucoup de choses à voir, mais entre autres ce fameux requin-baleine qui est un tout petit poisson qui mesure entre 4 et 14 mètres, même des fois plus.
Et ah oui, ça peut atteindre 20 mètres ?
Ça peut atteindre 20 mètres, oui, j'en ai pas vu, mais apparemment ça peut atteindre 20 mètres et son poids oscille entre 2 tonnes, c'est le petit, et puis 12 tonnes quand c'est le beau. Et sa longévité quand même qui, elle, varie de 100 à 150 ans, ce qui est quand même énorme.
Ah oui.
Alors c'est...
Mais on est sûr de ça ?
De la longévité, certains les ont sans doute bagués.
Ah voilà, c'était ma question. Oui.
Mais bon, il y a des comptages qui se font sous la mer. Hein.
Ah, d'accord.
Donc
voilà.
On voit, on les repère. Hein. C'est comme les oiseaux, comme tout ça. Hein.
Oui.
Alors malgré sa taille, c'est un poisson qui est parfaitement inoffensif.
Et pourtant, quand on parle de requin, on a peur.
Mais il n'a pas d'agressivité. Il se déplace lentement. Hein. On estime à 5 km/h, donc ce qui est vraiment
vous en avez vu
chez nous. Ah oui. On les voit, quand on les voit souvent, soit ils sont en pleine eau, soit ils sont au repos. Moi, j'en ai vu beaucoup. J'en ai vu quelques-uns qui étaient au repos. Et quand ils se reposent, ils ont souvent les rémoras à côté, à se reposer également. Alors, c'est un poisson qui est...
Mais quand il se repose, où se repose-t-il ?
Dans le fond, sur le sable.
Ah, sur le sable, du fond de la... Voilà. Là, vous êtes à quelle profondeur ?
Alors, ça dépend. Il peut être à 15 mètres, il peut être à 10 mètres, il peut être à 20 mètres.
Ah oui, voilà.
C'est un solitaire.
Très bien.
Alors, il a une grande bouche, mais qui peut atteindre 2 mètres de largeur, ce qui est énorme, avec une mâchoire avec 300 rangées de dents, ce qui est également impressionnant. Mais il mange des petites bêtes de 10 cm.
Ah donc, oui, il mange des petites bêtes.
Toutes petites bêtes. Hein. Et alors, donc, sa reproduction, on l'ignore un petit peu. Et on ne sait pas très bien comment ça se passe, mais la femelle met des petits à jour qui font 45 à 50 centimètres et qui atteignent à leur tour la maturité sexuelle quand ils ont 20 ou 30 ans, un petit peu, un peu comme l'homme, on va dire.
Mais et oui, parce que 30 ans pour une vie
sous-marine,
de 100 ans, ça peut aller.
Alors, il craint pas, il n'a pas à craindre de l'homme, mais par contre, il est surpêché, ce qui est bien embêtant, et toujours pareil, parce que la partie la plus prisée de l'animal, c'est son aileron, et cet appendice peut atteindre l'équivalent de 650 euros le kilo au marché noir en Chine ou à Taïwan.
Ah oui, c'est pour ça que c'est tellement, on ne parle que de l'aileron, justement. Le reste, voilà. Ce n'est pas...
C'est le triste sort des requins.
Ouais. Alors, la raie manta.
Alors, la raie manta aussi est dans son élément, là, aux Philippines. Pas aux Philippines, aux Maldives. Et c'est la plus grande des raies, puisqu'elle mesure entre 3 mètres et 6 mètres d'envergure. Et ce qui est quand même déjà impressionnant pour un poids oscillant entre 1 et 2 tonnes. Et sa vie est raisonnable, parce qu'on estime entre 15 et 20 ans, donc il n'y a pas de règle absolue. Et les raies manta, j'ai eu l'occasion de les voir évoluer au-dessus de ma tête. Elles sont petites pour manger.
Vous n'avez pas peur quand vous voyez?
Ah non, c'est parfaitement inoffensif. Elles évoluent en petits groupes et elles se laissent volontiers approcher par les plongeurs. On n'y touche pas parce que c'est interdit d'y toucher, mais elle passe vraiment près de nous. Et c'est avec sa grande bouche qui est vraiment immense, en fait, elle ne mange que du plancton.
Mais ça, vous pouvez photographier.
Donc, on peut le photographier, mais elle est tellement grande qu'on est obligé de prendre du recul pour la photographier. Et plus on prend de recul, et moins la photo est bonne.
Ah, c'est compliqué.
Il y a toujours des petits inconvénients. Et la raie manta aussi... elle a aussi, comme d'autres poissons d'ailleurs, elle se nourrit la nuit et la journée, elle s'en va dans un autre endroit, ce qu'on appelle une station de nettoyage, où les poissons viennent nettoyer sa peau des parasites. Oui, c'est une curiosité. Elle n'est pas la seule, hein. Elle n'est pas la seule. Les murènes en font autant, hein. Alors, c'est une bête la raie manta est ovovivipare et les œufs éclosent à l'intérieur de la femelle. Et puis la femelle donne généralement naissance à un ou deux petits, grosso modo d'un mètre d'envergure pour une dizaine de kilos. Et comme elle se fait nettoyer, et d'autres poissons aussi ont la même bonne habitude d'aller se faire nettoyer. Et les murènes, elles se font même nettoyer les dents.
Ah oui. Alors je sais que vous êtes allé aussi en Martinique. Et que vous avez découvert la rascasse volante.
Alors en Martinique, la rascasse volante n'est pas à sa place.
Ah.
Ce qu'on appelle également le poisson lion. En fait, la rascasse volante y est arrivée suite à un accident que je vais développer tout à l'heure.
Oui.
Cette petite bête l'a fait dans les 30-35 cm. C'est un poisson qui est vraiment magnifique, avec des belles nageoires, plein de couleurs. C'est vraiment quelque chose de très joli. Mais c'est un poisson venimeux. Et le venin qui est conduit dans ses épines est dangereux pour les petits animaux. Et puis pour l'homme, ça fait des petites douleurs.
Parce que ce sont des épines creuses, alors.
Ce sont des épines creuses, mais bien piquantes. Et quand on s'appuie dessus, ça pique. Et c'est mauvais pour les petits poissons, certains. Et puis c'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup de prédateurs.
Ah oui.
Alors c'est un animal qui vit dans les océans théoriquement pacifiques et indiens et qui est arrivé dans l'Atlantique, dans les Caraïbes, suite à l'ouragan Andrew qui a détruit un aquarium en Floride.
Ah oui.
Donc l'aquarium, ces petites bêtes se sont retrouvées dans la mer, elles se sont multipliées. Comme elles n'ont pas de prédateurs, eh bien, elles ont envahi la Caraïbe.
Alors maintenant, on va les chasser.
Alors, depuis quelques années, la chasse est autorisée par les autorités de plusieurs pays caribéens, donc tout autour, également par la France dans nos deux départements des Caraïbes.
Oui.
Et je vais dire les savants, c'est pas les savants, mais enfin, on s'est aperçu que si on excitait les requins avec des rascasses au bout d'un pic. Eh bien, d'agacement, il est mangé.
Ah, c'est bien.
Voilà. Donc, apparemment, les requins ont trouvé que la rascasse était bonne. Donc l'idée, c'est que maintenant, les requins, ils attaquent les rascasses qui sont elles-mêmes en liberté, ce qui permettra de rééquilibrer la production, si on
peut
dire.
Mais la rascasse, c'est très bon.
Alors la rascasse, depuis peu de temps, a été mise à la carte de certains chefs cuisiniers là-bas.
C'est bon.
Et personnellement, je n'ai jamais mangé.
Ah oui, moi aussi, j'en ai
mais,
mangé.
Donc elle est pêchée maintenant légalement.
Oui.
Ce qui lui permet d'être sur les tables des restaurants légalement.
Très bien. Alors, les étoiles de mer aussi, est-ce qu'elles ont la possibilité de se régénérer ?
Alors, certaines espèces peuvent se régénérer, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire repousser un ou plusieurs de leurs bras si elles en ont été détachées accidentellement ou volontairement, malheureusement, hein. Donc un bras perdu peut être régénéré en moins d'un mois à l'étoile. Et certaines étoiles sont même capables, à partir d'un seul bras qui a été rejeté, de reconstituer une étoile complète.
Ça, c'est formidable.
Ça, c'est une curiosité.
On ne peut pas s'inspirer de ça pour nous, pour reconstituer, non ? Parce que maintenant, on s'inspire beaucoup des animaux.
Ça serait bien, mais malheureusement, je ne pense pas que la nature humaine en soit à ce niveau-là. Ça se saurait, en tous les cas.
Oui.
Alors, l'étoile de mer, j'en ai jamais vu se déplacer, mais je sais qu'elle se déplace, elle ne reste pas à la même place.
Oui.
Et paraît-il qu'elle va à 14 cm à la minute, ce qui, je ne sais pas si c'est rapide, enfin bref. Elle se déplace quand même, elle n'est pas fixe comme ça.
Elle mange de tout.
Elle mange de tout. Elle mange de tout, ce qui passe surtout à sa portée. Donc des proies qui sont immobiles, des petites bêtes, des trucs comme ça. Et elle mange aussi des petits mollusques, des crabes, des vers, des oursins, des congénères, tout un tas de petites choses comme ça. Et on peut dire aussi que les étoiles de mer ont des sexes séparés. Et alors au début de l'été, il y a un signal chimique qui est mis dans l'eau et de concert, ça c'est curieux, chaque sexe expulse dans l'eau les œufs et le sperme et la fertilisation
externe
au gré des courants. Les rencontres se font au grand des courants. Et les œufs sont fécondés directement dans l'eau et se posent et l'étoile se grandit à ce moment-là. Et alors dans certains endroits, on dit sous les tropiques quoi, les étoiles de mer ont également, un peu comme des murènes, comme d'autres poissons, des crevettes nettoyeuses. Alors elle se pose sur l'étoile et elle lui retire tous ses parasites dont elle se régale d'ailleurs. C'est donnant-donnant, quoi. Donc, je nettoie et je mange.
Et j'en arrive au bénitier. Alors, ce bénitier, pour notre émission, je crois que c'est bien de finir sur ce bénitier qui mesure jusqu'à 1,50 m. C'est bien cela.
Alors, le bénitier, c'est un bivalve. Hein. C'est un gros coquillage. Ça ressemblerait un petit peu à une coquille Saint-Jacques qui est toujours en position debout. Hein, pour pouvoir s'ouvrir. Donc, oui, c'est une grosse bête de 150 kilos. Pour les
250
gros,
kilos.
250 kilos.
Et... Vous en avez vu ?
Ah oui, oui, oui. Ça bouge pas, hein, bénitier en plus. Hein.
Et où vous en avez vu ?
Oh, il y en a partout, en Égypte, aux Philippines, aux Maldives, il y en a absolument partout. Et des fois, ils sont encastrés entre eux, dans d'autres bénitiers. Il peut y en avoir 3-4 côte à côte. Et je ne sais pas comment ils font pour se pousser d'ailleurs les uns les autres. Mais enfin, bon, ils s'en sortent. Alors, le nom de bénitier.
Oui, alors, finissons sur ce nom de bénitier.
Le nom de bénitier, ça vient de ce mollusque qui était pêché, qui était mis à l'entrée des églises.
Voilà.
Comme la coquille Saint-Jacques.
De Saint-Jacques de Compostelle. Eh bien, un grand merci, Jean-Pierre Bernard. Je crois que nous avons été absolument séduits parce que vous nous avez raconté de vos voyages. Nous vous en remercions. Merci, Jean-Pierre Bernard.
Au revoir.